écoutez le tarot de la cité.
Et salut, bonjour, on est mardi 1er avril. Bienvenue dans la cité des interdits.
C'est un jour de poisson.
Voilà. Vincent Dupostillon est notre invité.
Salut. Bonjour, salut. Bonjour.
Alain est là, comme d'habitude, et Arnaud est à la technique. Et moi, je crois que je suis un peu enrhumée.
Mais on s'en fiche. Ça s'entend pas.
Mais parfait. Allez. Donc, on va directement passer au jeu, parce que c'est plus marrant comme ça. À moins qu'Alain, t'as envie de raconter une blague.
Non, j'aurais bien voulu faire un poisson d'avril, mais...
On le trouvera plus tard.
On le trouvera à la fin de l'émission, peut-être.
Des fois, quand on cherche, c'est plus compliqué. À trouver. Bon, alors, on ouvre le jeu avec la première carte, et c'est toi, Vincent, qui nous en parle.
Alors, j'ai tiré une carte qui s'appelle « Fondée ». Au verso, de l'autre côté, quoi, à l'envers, il y a marqué « Ritualité ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Sur le côté, il y a marqué « Cartographie d'une fée, tes potes » et « Jordan Kals ». Voilà, et sinon, les images, c'est donc il y a un rectangle. À chaque angle, il y a les quatre couleurs des cartes, quoi. Pique, carreau, trèfle, cœur. Et l'illustration, c'est un... Elle est coupée en deux en effet miroir, quoi. C'est dans un sens et dans l'autre, je crois que c'est la même chose.
Ouais.
Et au centre, il y a un visage qui est découpé dans une forme de cœur pas droit. Et un visage féminin avec les yeux bien défoncés, je dirais. Et au-dessus, il y a une théière. Une théière où l'eau jaillit depuis le... L'eau part du bec de la théière. Avec des inscriptions que je comprends. Ah si, avec... Et dessus, il y a un dessin sur la théière, il y a un cerveau. Ou une tête. Sûrement, je crois. Voilà. Sinon, il y a des feuilles et des espèces de tiges de feuilles sur les dessins. Et peut-être des fleurs aussi. Voilà à peu près tout ce que je vois. Et donc tout ça est en double et un miroir.
Mmh.
Voilà.
Qu'est-ce que ça signifie, fondé, pour toi?
En rapport avec l'illustration ou...
Non, comme ça, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque, fondé?
Ben, fondé, pour moi, ça... C'est pas un terme que j'utilise beaucoup, jamais, je crois.
Oui.
Mais du coup, je... Moi, je l'entends au sens fonder quelque chose. L'expression dans laquelle je le vois plus souvent, c'est fonder une famille.
Par exemple. Oui, tout à fait. Oui.
Mais du coup, c'est pour ça que je l'utilise pas souvent.
Oui.
Parce qu'on n'en parle pas tous les quatre matins.
Non.
Et, oui. Et sinon, fonder par extension, c'est construire quelque chose. Donc ça m'évoque les fondations, quelque chose de l'ordre du BTP.
Oui, tout à fait. Très bien, merci. Ça m'éclaire pour la suite. Et ça nous éclaire aussi sur une compréhension assez large du terme fondé.
Ok, très bien. Donc ça, c'est la carte un peu thème, c'est la carte majeure. Et après, on va ouvrir les cinq qui racontent l'histoire pour aller chercher cette croyance qui est le jeu qu'on ouvre aujourd'hui avec toi. Et donc, on va regarder la carte numéro 48.
Ok.
Allez. Et vous pouvez la regarder sur le podcast en même temps, en direct, parce que je les place en même temps, à Cité des Interdits du mardi 1er avril. Alors, qu'est-ce qu'on voit?
Je décris aussi ou...
Ouais, carrément. Si tu veux bien.
Donc, c'est aussi une double image qui est dupliquée, mais pas avec les mêmes...
motifs, ouais.
Avec les mêmes motifs, mais pas avec les mêmes couleurs ou ombres.
Ah oui,
non
oui.
Et donc, en bas, il y a deux personnages. Un espèce de... en fait, j'ai l'impression que ça... qu'il y a une sorte d'inspiration du fameux tableau qui s'appelle je sais plus comment, où un ange montre à un dieu Je sais plus quel est ce tableau. Enfin, je vois le tableau, mais je ne sais pas son titre. Mais en tout cas, il y a un petit ange qui pointe son doigt vers une personne qui est un peu allongée, affalée comme un dieu sur un divan, mais qui a un visage en forme de masque. Je ne sais pas quelle culture, indienne peut-être. Effectivement, non, c'est pas exactement les mêmes motifs. Et après, au-dessus de tout ça, il y a un bâtiment, il y a une porte de bâtiment de l'époque, d'une certaine époque. Je sais pas laquelle. En tout cas, vieille, avec des sculptures dessus, assez jolie.
Ça fait un arche un peu aussi.
Ça fait un arche, ouais. C'est quoi, c'est une porte plutôt d'une cour que d'un bâtiment, peut-être. Et au milieu et dans la porte ouverte, voilà, il y a des motifs donc qui diffèrent selon les deux cartes. J'arriverai pas trop à en parler.
Ok. Il y en a un qui est plus statique et l'autre qui bouge un peu. Est-ce qu'on peut dire ça?
Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. C'est des dessins peut-être qui ils me font penser peut-être à. Je sais pas, des animaux, des moustiques ou des guêpes, des abeilles. Mais très dessiné très librement, quoi. Il y en a un qui est effectivement bien droit, qui prend toute la place du porche, et l'autre un peu plus en biais, qui donne plus une idée de mouvement.
Et au niveau des couleurs, on est plus dans des trucs un peu noir et blanc, quoi.
Ouais,
l'ambiance.
Le dessin de gauche est très noir et blanc, et l'autre est à quelques couleurs.
Ouais,
un peu bleu, vert.
Et rose.
Rose.
Ouais, si. Ok.
Je suis curieux du sentiment que tu peux avoir à propos de cette évocation du tableau, mais surtout de ce qu'il représente, c'est-à-dire une personne plus ou moins assise, allongée, avec un masque. Qui tend un bras vers l'angelot, une sorte d'angelot. Qu'est-ce que ça évoque en rapport avec cette arche? Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Est-ce que c'est... Tu ressens quoi?
En fait, je me demandais le tableau sur lequel c'est inspiré, quel est le sens du tableau, et je ne me souviens plus. Okay. Parce que je ne me souviens plus de son titre, je ne me souviens plus du...
C'est un tableau Renaissance, oui.
Ouais. Et je ne me souviens plus quel est le sens du tableau, donc je ne sais pas s'il y a une référence à ça. Et, avec cette arche et ces figures plus ou moins... En fait, ça me fait un truc comme si c'était un lieu de pouvoir...
Ah oui.
De transmission.
Ah oui.
Entre.
C'est très bien ce que tu dis.
Entre
ouais,
Dieu
je comprends
et,
bien. Oui.
Et un angelot, comme s'il y avait des enjeux de cet ordre-là. En tout cas, c'est sûr que.
Ça fait écho au thème, il me semble.
Au niveau fonder une famille?
Ou autre chose, je ne sais pas ce que c'est.
La fondation de ce grand bâtiment.
Oui, il y a peut-être quelque chose d'un peu institutionnel qui est en train de se jouer dans la représentation de l'arche et la transmission de l'adulte à l'enfant, de l'enfant à l'adulte. Il y a des choses qui se parlent entre premier plan et dernier plan, par exemple.
Oui. Après, je ne saurais pas du tout comment interpréter le... Une espèce de moustique qui est au milieu.
Ah oui. Alors on va t'éclairer, on va te dire.
Okay.
On a fait pour l'ensemble du jeu, pour définir la période de la vie de laquelle on parle. Là, on parle dans la vie de la mante religieuse,
ouais,
qui est la période que va nous expliquer Florie.
Plutôt entre 42 et 63 ans.
Voilà.
Là, on parle...
Ça, c'est au niveau des âges, mais sinon, ça représente tout ce qui va être la passion, les dévorations, la sexualité, les choses qu'on désire.
OK.
Et après, par exemple, si tu vas tomber sur un scarabée, ce sera plus des choses spirituelles qui vont parler d'élévation. Et là, c'est plutôt ce domaine-là.
OK.
Donc il représente ça. À toi de choisir qu'est-ce qui représente pour toi dans cette carte le... Et si tu vois un sens en plus, je sais pas.
La montre religieuse.
Ouais. Bah. Le fait que maintenant tu sais qu'elle représente la passion, par exemple, ou le désir, ou l'obsession. Il y a aussi ça dans tout ce, dans toute cette montre religieuse. Et du coup, pourquoi elle prend toute la place dans cette porte, enfin, et droite là et pas droite là. Enfin, est-ce que tu peux ajouter un regard?
Bon, cette arche nous dit des choses de institutionnelles, je crois, parce que c'est une arche qui, par définition, elle accueille, elle reçoit, elle annonce, etc. Je trouve que c'est fort dans l'idée de la carte thème, en tout cas.
Oui, et moi, ça m'évoque quelque chose de l'ordre du pouvoir, quoi.
Ah, absolument.
Oui. De la puissance, de l'autorité.
Oui.
Pas trop de l'ordre de la passion, par exemple.
Non, c'est vrai. Hein,
ouais. Quelque chose d'un peu triste, d'un peu...
Oui.
d'un peu... On n'est pas là pour rigoler, quoi.
Non. Et peut-être même, on pourrait être déviant en disant, peut-être que c'est une transmission d'abus de pouvoir.
Peut-être.
Voilà. J'ose.
Bon. Ok. Si vous voulez. On regarde la carte suivante après la première musique.
Entendu.
Ok, alors la première musique est une musique que tu as pensée parce que je t'ai proposé de penser une musique de ton enfance et c'est Renaud, je crois.
Ouais, en fait, c'est que mes grands frères écoutaient beaucoup Renaud et donc. Moi, j'ai souvenir jusqu'à 14-15 ans d'avoir écouté que Renaud chez moi, je crois.
Et bien, on y va.
Mais
pour...
pas vraiment par choix, plutôt par
oui.
Tradition familiale.
De situation.
Allez, à tout à l'heure.
J'ai connu Mélusine au mois de mai à l'usine, à côté de Liévin. Elle était bien gamine, mais comme disait Bourville, il y a beaucoup de gens gamins. Jean Gabin, c'est rigolo. Quand j'ai connu Sabine, elle était dans son bain, hein, j'aimais bien sa bobine. On s'est aimé un brin, mais comme disait Daudet, il y a beaucoup de gens moulins. Rouge. Quand j'ai connu Catherine, je composais les quatrains hein, avec une catin. Là-bas en Argentine, mais comme disait Crivine, il y a beaucoup de gens noins. C'est hilarant, de la Baltique. Quand j'ai connu Martine, c'était un beau matin hein, j'ai beurré ses tartines, j'ai roulé des patins. Comme disait Lamartine, il y a beaucoup de gens bouquins. Là, je sais pas quoi dire. Quand j'ai connu Yasmine, j'y ai offert du yasmin, hein, elle avait mauvaise mine. J'ai demandé sa main, mais comme disait Lénine, il y a beaucoup de genre humain. L'international sera le genre humain, ouais, le dernier. Quand j'ai connu Amine, je faisais du dada, ah, je mangeais des nougatines. Là-bas en Ouganda, mais comme disait Merlin, ben, enchanté.
Théo Jasmin.
Allô, c'est toi, maman ?
On est de retour dans la Cité des Interdits sur Radio Campus Grenoble avec Vincent, Alain et Arnaud à la technique. Vincent, tu as la carte numéro
39.
39 après, à nous décrire, s'il te plaît. Et nous, on va la poster tout de suite.
Alors, la carte 39, elle est... je ne sais pas comment... On dit cette manière de faire miroir, là, un peu comme dans les vraies cartes de jeu de 32 ou de 56. Là,
avec le roi et la reine.
Voilà, en biais. Quoi. Elle est partagée en deux dans la diagonale. Pas de façon horizontale ni verticale. Et de chaque côté, un peu comme une... Elle ressemble plus à une carte de jeu dans le sens où il y a une tête en gros. Une tête et un buste. Et un gros coup d'un personnage qui, sinon, est difficilement définissable. Voilà, deux yeux, un nez, une bouche, Et je ne sais pas si c'est une sorte de foulard sur la tête, ou de bonnet, ou de... Peut-être plus foulard, car il y a, aussi quelque chose en bas qui évoque peut-être un voile, ou je ne sais pas. Voilà, donc ce personnage est dupliqué de chaque côté, avec pas exactement les mêmes couleurs, quoi. C'est tout à base de noir et blanc. Mais des choses qui sont en noir d'un côté sont en blanc de l'autre, mais pas forcément, le visage est en noir des deux côtés, par exemple. Et en dehors de ce personnage, il y a une grosse abeille, ou guêpe, qui, pareil, est de chaque côté, mais pas exactement au même endroit. Et puis après, de façon non symétrique, il y a d'autres insectes. Peut-être c'est aussi... Je suis assez mauvais en insectes.
Hein. C'est des représentations stylisées quand même, donc on peut se dire que c'est le monde des abeilles. Dans notre jeu, les abeilles, c'est tout ce qui est le travail, et l'univers du travail. Et là, j'oublie les mots, donc il y a aussi justement fonder, travailler, investir. Voilà, donc là, on est dans un autre âge, mais dans une autre voie.
Ok.
Et je ne sais pas ce que ça peut évoquer avec cette carte. Encore le noir et blanc. Déjà, le noir et blanc, c'est une couleur que tu apprécies, ou tu dans tes rêves, tu vois quelle couleur?
Je ne me suis jamais posé cette question.
Bon, tu dois voir en couleur, alors.
Ouais, je pense. Après, moi, je trouve que le noir et blanc peut être très beau. Du coup, moi, notamment, je fais pas mal de... Donc, je fais un journal et je lis beaucoup de journaux. Et des fois, je trouve que je préfère des pages en noir et blanc bien maquettées que de la couleur de partout moche, quoi. Et du coup, bien entendu, la couleur a un intérêt, mais le noir et blanc est plus sobre et peut suffire à faire quelque chose de joli.
Donc tu lui trouves une esthétique à cette carte, par la description que tu viens de faire.
Ouais, il y a quelque chose de plus uni que la précédente, en tout cas. Quoi, je ne sais pas si c'est uni, mais de plus cohérent dans l'esthétique, ouais.
Oui. Oui.
Et après, il y a ce mystère un peu de... à la fois le reflet ou l'effet miroir, et puis à la fois des choses pas du tout. Mmh. Des choses presque, mais pas. Mmh. C'est comme s'il y avait deux images, en fait, il y avait... ce personnage qui se reflétait, et les autres qui avaient été mis par-dessus, sans prendre en compte l'effet miroir. Comme si voilà, c'était des insectes, quoi, ou des abeilles, on va dire, sur une carte, quoi. Un peu collé, un peu scanné après, quoi.
Est-ce que tu ressens quelque chose qui a rapport entre les deux personnages, je sais pas, un désir, un conflit, une lassitude, une absence d'empathie? Qu'est-ce que ça peut nous raconter, selon toi?
Entre les deux personnages, ou...
Oui.
Parce qu'entre entre les deux personnages, j'ai... À part, encore une fois, comment Émile Noir et Blanc...
Oui.
Bah, y a un c'est similaire, presque, non? Du coup, moi, j'ai pas l'impression qu'ils sont en lien.
Ah oui, d'accord.
J'ai l'impression qu'ils se... qui se reflète un peu bizarrement, mais qui se reflète.
Oui.
Et
ah oui.
Du coup, moi, comme je le vois, j'ai l'impression que c'est le même personnage.
C'est ça.
C'est le même personnage dupliqué, du coup, qui...
C'est ça. Ah, c'est peut-être... ça pourrait être une contemplation dans un miroir.
Voilà.
Ou dans une surface qui est...
Dans un lac.
Qui le reflète.
Oui.
Mais qui le reflète de façon aléatoire, c'est-à-dire un peu... Peut-être comme le reflet dans une nappe d'eau, où les effets du ciel, les effets de la lumière transforment la figure originale.
Oui, 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 et du coup, on n'est pas dans quelque chose d'exact, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et pourtant, il y a de la précision dans l'image, non? Tu ne sens pas ça? Ou bien je me fais des histoires.
La précision, dans quel sens?
Je ne sais pas, dans précision dans le dessin, dans... dans l'affirmation du noir et blanc, dans... Et puis il y a aussi cet environnement de ces personnages qui peut aussi nous raconter quelque chose de différent de l'identité du personnage.
Les abeilles?
Oui.
Ouais, les abeilles, c'est pour ça que effectivement ça peut faire penser à un reflet dans un lac.
Oui.
Avec des abeilles qui tournent autour.
Oui.
Mais alors pourquoi elles sont pas reflétées?
Ah.
On sait pas trop.
C'est ça.
Mmh. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de comme s'il y avait deux images dans une. Je trouve elles sont pas.
Oui. Superposables. Ouais.
C'est comme si on avait mis les dessins d'abeilles par-dessus un dessin de carte.
Mmh. Oui, un peu comme si les abeilles volaient au-dessus du reflet.
Ouais. Oui, c'est ça.
Il y a les abeilles qui sont derrière le personnage ou devant le personnage et celles qui sont en action devant la surface réfléchissante.
Oui.
Alors, ça raconte des choses tout de même de cet espace imaginaire mais réel, un espace de narcisse peut-être.
En tout cas le personnage a l'air assez sûr de lui, quoi.
Oui.
Assez droit et fier quelque part.
Oui.
Après le dessin est très simple donc c'est dur à dire, mais en tout cas ce qui se dégage c'est une certaine
assurance.
Il y a une certaine assurance.
Moi, je vois. Enfin, j'étais un peu perdue. Mais je vois plutôt quelqu'un qui peut être stable d'un côté des choses et stable de l'autre côté des choses. Genre, bien dans la gestion du jour, par exemple, et bien dans la gestion de la nuit.
Ah, oui.
Je le vois comme ça plus.
Ah, oui.
Non. Oui, c'est vrai qu'en fait, je me suis centré sur le personnage, mais le fond est d'un côté clair.
Oui.
Et de l'autre côté, noir.
C'est ça.
Donc, effectivement, il peut y avoir cette interprétation jour-nuit.
Oui. Mais par extension, on pourrait être dans l'idée de état de conscience, état d'inconscience, par exemple. Ou état de rêve, état de conscience.
Voilà. Et lui, par exemple, dans son inconscience, il est le même, quoi. Chance, ou pas.
Bon, il est le même parce que la tête est pareille.
Ouais, je trouve. Mais... Et puis, il a les yeux...
Oui, c'est presque.
Enfin, je sais pas.
Mais l'inconscience, de toute façon, c'est à l'intérieur de la tête, c'est pas l'apparence physique.
C'est ça, oui.
Ouais. Mais est-ce que. Mais oui, ça peut ne pas bouger. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça bouge complètement.
Ce que je trouve amusant, c'est qu'il est noir.
Comment on est inconscient?
C'est pas un propos discriminant de dire qu'il est noir.
Non, pourquoi?
Non, mais jusqu'à présent, on parle de.
C'est comme les
pions. On parle aussi de l'esthétique, mais on parle aussi de l'évocation du noir en tant qu'entité culturelle, entité... Je ne sais pas.
J'ai l'impression qu'il y a
le noir dans la nuit, le noir dans le jour. Point de suspension.
Mais les abeilles, c'est quoi alors
le symbole fait, ça fait écho à ce qu'il y a tout le domaine du travail. Pourquoi on est engagé? L'engagement, on va dire.
Oui.
Parce que les abeilles sont des grandes travailleuses et...
Voilà, on a mis l'abeille pour symboliser tout ce qui va être le travail.
Enfin, l'activité collective pour un travail, pour une destinée commune.
Ah oui, là par exemple, ça peut être aussi deux travails. D'un côté, j'ai un travail alimentaire, de l'autre côté, j'ai un travail onirique. Enfin, ça peut représenter un peu ce genre de choses.
Tout à fait.
Oui.
Bon...
On regarde la carte suivante avant d'écouter la...
Allez,
c'est la carte numéro 1.
Ok.
Allez.
Vous la connaissez?
Eh bien, moi, je m'en souviens, j'avoue.
Allez.
Mais je vais la poster maintenant. Vas-y.
Ah, c'est la première non-double image. Ah. Simple image, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce que toi, tu vois?
Alors, ce sont encore des personnages anciens. Donc, il y a une femme. Donc, c'est plutôt dessiné comme si c'était une statue.
Ouais.
Je trouve.
Ok.
Pas forcément, mais...
Une sculpture,
Je veux dire, une sculpture plutôt qu'une statue.
Ouais, c'est similaire.
Et donc, il y a une femme qui a un petit garçon dans ses bras. Et le petit garçon a une posture comme s'il têtait son sein, mais sauf que il n'y a pas vraiment son sein à l'endroit. Il y a d'autres choses dessinées, quoi. Il y a des traits ou peut-être... Bon, voilà, c'est pas complètement clair. Voilà, et donc... la femme et le petit garçon sont dessinés comme si c'était une statue, sauf sur le vers en haut à droite de l'image où le grisâtre disparaît et il y a un peu de orange, il y a un peu de blanc et un peu quelques motifs comme ça qui cassent un peu le côté classique sinon de la représentation. Et puis en haut à droite il y a quelque chose que je prends pour une lune. Mmh. Et voilà, à peu près. Hein.
Ouais. Quelle couleur ? Est-ce qu'on a les couleurs ?
Ah oui, du coup, la plupart du dessin est en gris. À part ces bouts de blanc et d'orange, la lune est une autre forme de gris et avec un peu de blanc. Mmh. Et il y a un fond orangé, quoi.
Mmh. Et un peu de bleu sur la tête.
Oui, c'est vrai. Et même un peu de bleu, un peu partout d'ailleurs.
On est encore un peu dans la période de la Renaissance.
Ouais.
Oui.
Alors, ça vous évoque quoi ? Ça m'intéresse, la Renaissance, vous.
C'est...
Parce que moi, c'est mon thème cette année, mais j'ai pris le thème sans savoir que c'était le parti de...
Oui.
Politique de...
Oui.
J'ose même pas le dire, je veux pas. Je suis contre. Bon, donc du coup, la Renaissance, est... poétiquement...
Te voilà très pudique.
Poétiquement
ou, qu'est-ce ou que... politiquement, qu'est-ce que ça dans cette carte, pourquoi ce thème arrive là, je sais pas, je pose des questions.
Non, moi je par rapport à cette carte j'en sais rien. Après moi la Renaissance je connais très mal en fait, et par contre j'aurais beaucoup de curiosité mais que j'assouvis pas beaucoup, mais parce que j'ai l'impression que moi je connais bien l'histoire contemporaine à partir du 19e siècle, à partir de la révolution industrielle en gros.
Okay.
Et que avant pour moi Moyen-Âge, Renaissance, même avant le Moyen-Âge et tout ça se confond un peu, j'ai du mal à délimiter vraiment les périodes et à me projeter dans un peu comment pouvait être la vie avec toute la difficulté de façon que ça représente, mais j'arrive un peu plus au 19e siècle qu'à la Renaissance. Mais j'aimerais bien avoir plus de culture là-dessus, parce que notamment, j'ai l'impression qu'il y a une propension à une propension et un intérêt à faire comme si, par exemple, avant la révolution industrielle, la vie était juste hyper dure, hyper sale, hyper qu'elle valait pas le coup d'être vécue, quoi.
Ah ouais.
Alors que, je sais pas, mais. Mais qu'après, par ailleurs, quand on lit d'autres choses, moi, c'était beaucoup plus complexe que ça, quoi. Mm. Mais je suis pas du tout spécialiste de cette période.
Mais tu parles d'histoire, néanmoins. Oui. Parce que cette carte, elle te positionne dans un questionnement sur l'histoire.
Ouais.
Et si nous faisions l'histoire de cette carte. Qu'est-ce qu'on dirait si on faisait une description plus précise ? Et quelle évocation elle a engagé par son imagerie quelque chose qui a un rapport à une croyance.
Oui. À une croyance sur...
Sur le fait d'avoir des enfants ?
Oui, aussi.
Non, pour autre chose, oui, faire des statues. Non,
mais c'était par rapport à l'histoire que tu voulais dire, ou ?
Oui, comme ça, oui. L'histoire. Il s'agit d'une femme, donc c'est un rapport à l'histoire de la femme et qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette femme qui tient son enfant. Elle veut nous dire quelque chose qui a à voir uniquement avec la maternité ou bien en train de fonder autre chose, précisément. Si on considère qu'à la Renaissance, la question d'écrire, la question multimédia n'existe pas. que seules les représentations.
Bah si, ça arrive.
C'est ça, oui, il y a déjà des écrits.
Oui, oui, mais ça n'existe pas de façon élargie. Je veux dire, on communique par l'image dans les églises en particulier et dans les cercles du pouvoir par des images qui ont des sens très, très précis. Là, on a un sens précis parce que la femme porte une auréole.
Ah oui, c'est ça, oui. Elle, c'est une... Mais une auréole, c'est pas dans ce sens-là, normalement, non?
Mais là, elle penche la tête, alors elle doit bouger avec elle.
Ouais, peut-être.
Ou sinon, elle est dans la transmission. Hein. Mm-hmm. Elle essaie de... Elle a le visage doux et l'enfant moins, alors peut-être qu'elle essaye de... Tiens, prendre la douceur.
Là, c'est vrai que c'est le décalage, elle fait très calme, tandis que l'enfant paraît un peu... paraît un peu... il tire la gueule, quoi, un peu.
Ouais, il est particulier, cet enfant.
Mais on dit il parce que c'est résolument un garçon.
Ouais.
Ah, d'accord.
Je crois, hein.
Ah ouais, oui.
Enfin, on devine un pénis, mais peut-être pas, en fait.
Oui. Donc, précisément, c'est la Vierge et l'enfant. Grand thème de la Renaissance.
Ah, je sais pas, ouais, sans doute.
Oui. Grand thème de propagande religieuse.
Ouais.
Voilà.
Pour dire la propagande.
Voilà,
pour,
c'est jeté.
La propagande pour dire quoi?
Ah ben pour dire croyez en Dieu.
Parce que
ça va vous sauver.
Mais.
Mais toi, tu en dis quoi?
Bah, je veux dire, ce genre d'image. En quoi ça veut dire croyez en Dieu?
Croyez en Dieu, c'était l'influence.
Oui, c'est vrai que si on regarde comme ça, ça fait plutôt croyez en la femme ou à l'enfant.
Ouais.
Oui. Ça peut se limiter à cette relation humaine et pas forcément religieuse. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Oui.
C'est ça.
Bah, en fait, en tout cas, là, moi, il n'y a rien qui... Quoi, je vois bien que c'est des images potentiellement utilisées par le christianisme, mais je ne vois pas quel est le sens derrière. Et parce que j'ai peu de culture. J'ai peu de culture du catéchisme et tout ça, mais...
Oui, oui.
Mais je ne vois pas quel est le...
Tu ne vois pas l'utilité, c'est ça?
Bah non, mais quel est...
Tu ne vois pas l'utilité. Pourquoi de la signification de cette image.
Quoi, l'utilité, en dehors de l'utilité, même le sens, je veux dire, je ne vois pas en quoi ça véhicule un imaginaire ou une idéologie chrétienne. Quoi.
Tout à fait. Tout à fait.
Tu dirais que c'est plus païen que ça?
J'en sais rien, ni l'un ni l'autre. Ouais.
Oui, mais tu, sans doute, en parlant comme ça, tu parles d'autre chose qu'on ne connaît pas. Comme par exemple, on pourrait évoquer de la tendresse, de l'admiration, de la stupéfaction, etc., etc. Je veux dire, elle n'est pas muette, cette carte.
Non, bah, en fait, en dehors des choix graphiques, il y a la tête de l'enfant qui est quand même, qui est quand même étonnante. Mm. Ouais, et sa chevelure aussi, d'ailleurs. Mm. Parce que pour qu'elle le porte comme ça, qu'il tête encore et qu'il ait... des cheveux si
crépus,
c'est aussi bon, ça arrive, mais
et qui tête un sein qui est pas vraiment son sein.
Son visage fait plutôt
c'est décalé,
fait plutôt plus vieux, quoi.
Oui, tout à fait,
fait plutôt adolescent.
Très bien,
on va écouter la musique intermédiaire. C'était quoi déjà?
Bertrand Belin, je crois.
Ouais, allez.
Je survolerai les villes. Je survolerai les campagnes. Les parkings. D'autres parkings. Les monuments. Les chantiers. Je survolerai les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse. Les avions de ligne, je survolerai les vignes, mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre. Je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe.
Eh bien, on est de retour dans notre Cité des Interdits sur Radio Campus Grenoble. Si vous voulez regarder les images, je les poste en même temps qu'on les lit, qu'on les ouvre, qu'on les regarde. Et nous allons ouvrir la 34, si tu veux bien. Avec un petit fond sonore, parce que nous sommes au ciel.
Voilà. On entend un peu une batterie, notamment. La 34...
Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Eh bien, il y a encore des abeilles. Hein. Je ne sais pas s'il y en a... Non, il n'y en a pas toutes les...
Non, c'est toujours le grand domaine du travail.
Oui. Il y a encore pas mal d'abeilles, donc c'est une double image qui se... C'est une double image, quoi, qui se duplique, mais de façon... Graphiquement, j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Et après, c'est les couleurs qui changent. Par exemple, les abeilles sont en jaune et noir d'un côté et en blanc et bleu de l'autre. Et après, en haut, il y a un grand rond fait de petites alvéoles d'un point de vue apicole.
Ah oui, je vais changer de sens comme ça.
Ah oui, parce que faut mettre quoi ?
Ah bah, je sais pas, non, mais en fait, on la regarde bien.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Attends, c'est bon.
Oui, parce que moi, je sais pas. En fait, comme ce qui descend du grand rond, ça faisait un peu comme un vêtement, une chemise. Ou... Du coup, j'ai l'impression que c'était dans ce sens.
Vas-y,
qu'il y avait un corps et que le grand rond, c'était comme une tête.
Ah oui ?
Moi, je sais pas.
Allez, je n'ai jamais vu comme ça, c'est bien.
Et voilà, ce grand rond, il est en jaune d'un côté et en bleu de l'autre. Et puis après, en dessous, il y a... comme une queue d'abeille, mais en très gros par rapport aux autres, en jaune et noir d'un côté, en blanc et bleu de l'autre. Et différentes formes comme ça, dont deux choses qui pourraient ressembler à des yeux, ou à des bouts d'œil.
Okay.
Et quelque chose qui pourrait ressembler à une bouche. Et puis au milieu. Et puis qui traverse l'image, il y a un trait qui finit en... Qui finit en, je sais pas comment on dit là. En...
Dans la spirale de... En...
Qui finit dans une spirale, ouais, un peu.
Mmh.
C'est qui lui, Philippe Audin ? Je suis jamais bonne dans les mots.
C'est l'évolution du nombre d'or.
Du nombre d'or ?
Oui.
C'est une représentation, c'est un... on s'entend fort, non ?
C'est une géométrie de découverte de la Renaissance, une fois de plus, puisque c'est celle de... C'est celle de... d'un célèbre peintre.
Qui s'appelle ?
Compagnon de François Ier, pour une part.
Okay.
Et italien, d'autre part.
C'est qui, c'est Vinci ?
Pardon ?
Le peintre.
Le peintre est italien.
Tu veux qu'on le devine ? Tu alors, fais des mystères ?
Oui. Non, c'est parce que j'ai envie d'avancer sur...
autre chose.
La, oui, parce que c'est, bon, c'est très beau. Et c'est, bon. Il est considéré comme un génie. Il invente. Il invente l'hélicoptère, il invente, c'est un inventeur aussi. Un célèbre peintre qui a peint la peinture la plus iconographique, voilà, qui existe au musée du Louvre.
Voilà. Donc c'est Vinci.
Oui,
oui, c'est ça, c'est, oui. C'est lui, c'est lui. C'est Léonard. Mm. Voilà, alors, donc là, il est un peu... Enfin, on s'amuse de cette figure qui a une rigueur absolue. Et peut-être que ça sous-entend aussi une rigueur de l'ordre du monde. J'aime bien qu'on essaye de détecter qu'est-ce qui se rapporte à cette croyance apparente d'un ordre très structuré. Et aujourd'hui, on est sensible au monde animal, parce qu'il appartient à la biodiversité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire si on l'intègre dans nos croyances du moment ?
Nos croyances, celles de la société ou...
Oui.
Bah, parce que je ne suis pas sûr d'avoir les mêmes, mais...
Et c'est ça, heureusement.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire de quoi, du monde animal ?
Ben oui, par exemple. Ou...
Est-ce qu'il se sent bien dans cette forme ou est-ce que finalement il a les ailes qui pendent et il voudrait mieux ?
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on se prend des libertés d'expression ?
je ne sais plus la question.
Non, mais ça ne fait rien. Aucune, okay. Aucune utilité, la question. Disons, okay. Disons plus brièvement, si on le rapporte à notre projet contemporain. Qu'est-ce que ça peut dire, cette carte ? Nos projets contemporains étant la crise du réchauffement climatique, le problème de la biodiversité, etc. etc.
Bah moi, je vois quelque chose de... Les abeilles... l'espèce de gros rond, là, je vois quelque chose de très artificiel, peut-être de très informatique. Des sortes de pixels et qui a une taille un peu disproportionnée par rapport aux abeilles par exemple donc comme quelque chose de très artificiel qui grandit pour et qui notamment menace les êtres vivants
c'est ça oui c'est l'emprise du numérique quoi
peut-être
c'est l'emprise de la côte américaine où se développent les oligarchies de
Et de la région grenobloise. On se développe d'autres oligarchies.
C'est ça.
Et je pense qu'ils fabriquent un monde un peu moche, comme ces pixels là.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
Fais voir la 95 alors. C'est 95.
Ouais.
Allez, je vais regarder ça.
La 95, c'est une simple image avec un dernier plan, plutôt une fenêtre dont un pan est ouvert. La fenêtre est en violet les murs autour sont en violet, quoi, une partie des murs. Puis sur la fenêtre, il y a deux personnages. Voilà. Et après, sur la gauche, il y a un fond, on dirait pas trop que c'est un mur, mais un fond en marron. Et sur le plan d'avant, en avant-dernier plan, il y a un personnage... je sais jamais, moi, j'ai pas trop de culture là-dessus, si c'est hindouiste ou...
D'accord. Enfin, bon.
Oui, une représentation...
D'Asie.
Une représentation d'Asie, je dirais.
Oui.
Et du coup, qui... Voilà, qui regarde vers le bas, comme s'il regardait un livre.
Tout à fait.
Et puis, en premier plan, il y a une tête d'un être humain de dos. On voit son crâne et ses cheveux et son long cou.
Mmh. C'est vrai. Mmh.
Comme si cet être humain regardait le personnage d'Asie lire son livre, en servant de la lumière de la fenêtre pour lire son livre.
Mmh. On dirait même que le livre lui-même est éclairé.
Ouais.
Enfin,
c'est peut-être une tablette.
Bah ouais, c'est moderne.
Ouais.
Et donc, tu penses qu'il vient chercher une information ou pas? Ou qu'il vient...
L'être humain?
Ouais.
Ben, comme il n'y a pas trop de mouvement, je sais pas, ça fait comme s'il le regardait plus qu'il lui parlait. Et comme l'autre ne le regarde pas, surtout.
Ok. Mmh.
Ça fait comme si... Après, c'est ce qui est étonnant, je trouve, par rapport aux autres cartes, c'est que pour le coup, à part ce personnage d'Asie, on va dire, tout le reste est assez normal. Et assez... une fenêtre, comme dans mon appart, quoi. Un être humain qui pourrait être... ça pourrait être un portrait complètement réaliste. Il aurait une sacrée coupe de cheveux, mais pas tant que ça non plus. Et il y a juste ce personnage au milieu. Quoi, juste entre guillemets, je dis. Mais...
Ouais. Allez. Ok. On écoute cette troisième et dernière partie musicale. Okay. Je perds mes mots. Comme ça, on a le temps de visualiser les cinq images pour aller chercher ce qui s'est raconté ensuite.
Okay.
Allez, on est sur Radio Campus Grenoble dans la Cité des Interdits.
Charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le mont Pelé et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de Tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Monnat et Thiémile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum, la tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines? Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole, et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine à se trémousser sur un tube de zouk machine? Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs, et sais-tu
vaincu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur...
Allez, on revient, il nous reste 10 minutes. Enfin, un petit peu moins de 10 minutes. On ne sait pas où on va, mais on y va. Allez, qui veut commencer? Elle a une question ou... Tu veux faire une synthèse?
On n'a pas beaucoup entendu Vincent sur la dernière carte. Et il me semble qu'elle est importante dans le récit continu de l'histoire. Alors je propose peut-être d'écouter ce que Vincent nous dit de plus, s'il peut, sur cette dernière carte. En tout cas, je vois une continuité du chiffre 2. La première carte, il y a 2. Dans la deuxième carte, il y a 2. Etc, etc. Chaque carte représente un couple, quelle que soit la nature de ce couple, et quel que soit le jugement qu'on en ait, il y a tout de même une permanence dans ce 2. Voilà. C'est juste la piste qui m'intéresse maintenant pour aller construire un récit dans l'ordre que tu veux, Vincent, sur peut-être ce lieu commun du double.
Du coup, je parle de la dernière carte.
Oui.
Non, mais moi, comme je disais tout à l'heure, elle me fait un truc très simple par rapport aux autres.
Oui.
Et moi, comme je l'interprète, ça fait quelqu'un qui est surpris de voir ce personnage lire un livre.
Ah oui.
Qui est surpris et qui est content du coup.
Et pourtant, on ne voit pas son visage, on le voit de dos. Il est très surpris.
Mais comme quoi surpris et
oui.
Quoi, en tout cas, ce qu'il le regarde. Alors que normalement, on ne regarde pas trop quelqu'un lire un livre. Mmh. Et comme l'autre ne le regarde pas, ça ne fait pas comme s'il lui parlait ou comme s'ils avaient une interaction.
C'est ça.
Et du coup, je vois quelque chose d'assez simple par rapport aux autres images.
Mmh.
Et notamment par rapport à celle d'avant.
Mmh.
Qui, moi, j'ai l'impression quand même les trois premières sont plus reliées à l'histoire, au passé.
Oui.
Et peut-être aux puissances anciennes,
oui,
qu'elles soient celles des seigneurs ou de la religion.
Oui.
Et que la quatrième serait plus liée à la puissance moderne, qui est celle de l'informatique, mmh, des machines et des robots.
Mmh.
Et la dernière sur la simplicité de la lecture.
Ah. Quoi, quand tu dis lecture, je peux poser une question?
Ouais.
Est-ce que tu parles de lecture au sens de la connaissance ou au sens du récit onirique? Ou est-ce que les deux sont semblables, d'ailleurs, sont conjoints? Qu'est-ce qui se récite? Qu'est-ce qui se dit? Y a-t-il un récit, en fait?
Ben moi, je ne dirais pas que ça se dit et tout ça, c'est juste le plaisir de la simple lecture.
Ah,
et
d'accord.
Du coup, par rapport aux puissances,
d'accord,
qu'elles soient religieuses ou informatiques,
oui,
de retrouver ce simple espace de liberté où...
Je comprends, oui.
Où on peut penser, apprendre des choses sans que ça obéisse soit à des...
C'est ça.
À des préceptes religieux, soit à des algorithmes et des bulles de filtre développées par des... start-upers ou des industriels.
Ah oui. Ah oui.
Pas mal.
Mais tu nous dis beaucoup de choses sur cette question de la construction. La construction de la compréhension de notre histoire d'humanité. Ça me touche beaucoup. Dès le début, d'ailleurs, tu prends un parti très net en te disant ne pas être connaisseur de la Renaissance et plus intéressé par le monde industriel. Et ça tombe très bien lorsque tu décris vers la carte des abeilles avec le nombre d'or comme une s'apparenter à une technologie de pouvoir.
Mmh.
Oui. Je vois pas trop le rapport avec fondé, par contre, mais...
Ah oui.
Ben, en fait, c'est l'importance de ce qui se transmet. Qu'est-ce qu'on... si pour toi il y a la simple lecture, partout il y a de la lecture, mais y a... non, moi je sais pas où je veux aller.
Dans toutes les cartes, il y a de la lecture.
j'ai un sentiment très précis qui est. Qui court au travers tout le récit des cartes, mais aussi le tien. C'est-à-dire que tu as une sorte de permanence d'une croyance, d'organisation sociale, que je dirais politique.
Une permanence d'une croyance d'une organisation sociale. Quoi, c'est-à-dire que je crois... Je crois en quoi ?
Ah ben... Ben je veux pas donner le mot de la croyance tout de suite.
Parce après, c'est le moment, il nous reste 3 minutes.
Après,
alors.
C'est fini, quoi.
Les 56.
Moi, je pense que ce que tu nous décris, c'est formidablement la question de l'ordre. Mais l'ordre, non pas entendu comme une injonction, mais comme une nécessité.
Et ça, c'est ce en quoi je crois ?
Ben, oui, je crois que tu crois. Je crois que tu crois à l'ordre, mais comme une valeur de qualité. Et c'est tellement beau.
T'as pas vu comme est rangée ma chambre.
C'est tellement beau qu'à la fin, tu dis oui, c'est l'ordre de soi qui fait la liberté, parce que c'est celui qui écoute la narration de cette personne venue d'Asie, alors que lui, il est dans son intérieur, bien de chez nous. Et donc, c'est un ordre de la liberté. Dans la carte d'avant, c'est un ordre algorithmique. Dans celle d'avant, c'est un ordre, je ne sais pas, tu pourrais le dire, toi, peut-être, si tu le vois maintenant, dans cette carte miroir qui pose tant de questions sur...
C'est vrai que je vois moins cette carte.
Oui.
Comment l'interpréter ?
Oui.
C'est l'ordre de Narcisse, quoi. Qui...
Oui, c'est ça. Et oui.
Laquelle on regarde, celle-ci ou celle-ci ?
Celle-ci. Oui.
Non.
On regarde celle qui est... Ah oui. L'ordre.
Oui, celle des... qui s'apparente le plus au jeu de cartes. Oui,
voilà.
Avec les deux personnages en miroir, mais c'est un seul personnage qui se mire dans une surface réfléchissante. Et donc, tu parles de Narcisse. Effectivement, c'est l'ordre narcissique. Et la première, alors, c'est encore une autre fondation de l'ordre. Et je trouve que c'est fantastique que le thème se retrouve explicite dans la manière dont tu décris avec la... Tu veux pas y faire rencontrer le sentiment, mais bien nous prouver qu'il y a un ordre qui est établi avec une certitude.
Un ordre entre ces 5 cartes ?
Non, oui. Chacune d'elles a son ordre propre.
Moi, dans ce mot ordre et dans le truc fondé, moi, je m'en rapporte à la puissance, quoi. La puissance et à l'autorité. Et qu'effectivement, comme on disait, entre la première sur les bâtiments de pouvoir, les représentations des... L'autre, le narcissisme, donc le sentiment de surpuissance aussi, qui peut aller avec.
Oui.
L'autre, quelque chose de l'ordre de la maternité, le christianisme, l'algorithme, et puis là, à la fin, quelque chose de plus simple.
Oui. Et ton admiration va pour la chose la plus simple.
Pas forcément.
Ah.
Forcément.
Ah.
Mais c'est là où tu es dans ton autorité.
C'est pourquoi il pourrait y avoir deux croyances. Qui pourrait être l'ordre, mais qui pourrait être aussi la question d'humanité.
Peut-être.
Voilà. Bon, dans ce désordre... C'est la fin. On doit se quitter car il est 15h et rentre en antenne.
Dommage. On va continuer en antenne.
Okay.
Bon, merci à tous de
votre écoute.
Merci Vincent.
Merci à vous.
Merci Arnaud. Merci Arnaud. La radio. Merci au ciel. Ciao.
Ciao. Magnifique.